Bien, alors assez paradoxalement, je vais pas parler de la lutte contre les discriminations, en tout cas pas directement, mais plutôt de la question des rapports entre reconnaissance culturelle et justice sociale. Je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai remis deux relativement longs textes, j'en suis désolé, dans la farde documentation pour les étudiants. Parce qu'il y a un aspect de mon travail actuel que j'essaie de croiser avec mon travail d'origine et qui est précisément celle des liens entre lutte de reconnaissance culturelle et lutte de justice sociale. Parce que, je le dis quand même en un mot concernant les luttes contre les discriminations, et en particulier tout ce qui concerne les discriminations sur base de la culture, de la religion, de l'ethnique, je mets des guillemets puisque ça n'apparaît pas dans les textes de loi, etc. Mais enfin, c'est quand même bien ça qui est là sous-jacent. Là où je suis assez d'accord avec l'hypothèse globale de ce séminaire, c'est qu'il faut évidemment politiser la lutte contre les discriminations. Il ne faut pas la laisser dans une sorte de rationalité autonome, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit la rationalité statistique, mais qui en fait effectivement, et qui peut en faire effectivement, un outil de management en réalité, sur un modèle de marché. Et là, je suis d'accord avec cette hypothèse-là. Je pense aussi qu'il y a dans plus les pratiques de lutte contre les discriminations, dans les luttes de lutte contre les discriminations, les luttes concrètes qui ne sont pas toujours celles d'institutions comme le Centre ou la HALDE avec des gouvernements, etc., mais qui se passent parfois dans les prétoires, parfois dans les entreprises, entre les gens eux-mêmes, dans le logement, etc., etc., et d'aller retrouver quelles sont ces luttes et ces conflits, et de toujours garder le cap de la politique, et pour faire le lien avec la conclusion de l'exposé de Thomas, avec la question du projet, la question du récit, etc., etc. Et cette lutte interne aux luttes contre les discriminations, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'interne, y compris dans une organisation comme la mienne, où il y en a beaucoup qui se contenteraient très, très aisément de lutte contre la discrimination vécue comme une sorte d'idéal du marché sans de concurrence parfaite. Et donc, c'est une lutte un peu sourde, tout à fait courtoise. Je vous assure qu'il n'y a pas... Le Centre pour l'égalité des chances ni la HALDE ne sont à feu et à sang. La HALDE peut-être, mais pour d'autres raisons. Mais c'est un véritable enjeu qui est pointé là. Et tous ces enjeux sont particulièrement forts et se doublent encore d'autres questions lorsqu'il s'agit spécifiquement des questions de reconnaissance culturelle, religieuse et autres. Voilà. Donc, voyez le lien... ici, dans notre service avec Florence et d'autres, je pense que si on doit résumer, je pense qu'on travaille quand même beaucoup sur le conflit et sur le dissensus. C'est pas pour rien qu'on a donné ce titre à notre revue. Et en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est une théorie critique de la société en termes de rapport de force et de jeu de pouvoir dans le siège de Foucault, mais, me semble-t-il, en tout cas je m'avance pour moi ici, sans renoncer à l'idée d'émancipation individuelle et collective, précisément les récits, et donc ce qui fait que notre Foucault est peut-être plus proche de Kant et de Marx que de Nietzsche, pour le dire très très rapidement. Voilà, alors vous voyez dans quelle perspective je vais maintenant aussi vous parler du Centre pour l'égalité des chances, et aussi des deux grands débats publics organisés par le gouvernement belge auxquels j'ai activement participé, qui est la commission du dialogue interculturel en 2004-2005, puisque j'étais le rapporteur de cette commission, et les assises de l'interculturalité qui ont clôturé leurs travaux dans la douleur en novembre 2010. J'ajoute que la crise politique belge actuelle, qui est à la fois une crise de reconnaissance culturelle et une crise de justice sociale, je pense que ce qu'il y a derrière la question du nationalisme, du régionalisme et du séparatisme, c'est le modèle social belge et la liquidation de ce modèle social belge. Donc c'est le lien entre cela est également une source d'interrogation supplémentaire pour moi. J'en toucherai juste un mot en fin d'exposé. Alors je voudrais dire d'emblée l'enseignement philosophique que je tire de l'expérience institutionnelle qui est la mienne actuellement, c'est que les luttes de reconnaissance culturelle, donc les luttes dites des minorités culturelles, sont des impasses et que ne peuvent jamais par elles-mêmes constituer un processus émancipateur pour les individus. Non pas que ces luttes de reconnaissance culturelle n'expriment rien de juste et de légitime, je pense qu'elles disent beaucoup, que nous devons les entendre, mais qu'elles doivent toujours être réinscrites, réimplantées dans la configuration matérielle qui les sous-tend, qu'elles doivent être constamment réarticulées aux luttes sociales comprises dans un sens large. Je veux parler de lutte sociale, non seulement l'emploi et les allocations sociales, mais également, j'y reviendrai très rapidement dans deux minutes, le logement ou l'école, par exemple. Alors, cette affirmation pourrait être comprise, je pense qu'on vous en a un peu parlé, comme une prise de position en faveur des thèses défendues par Nancy Fraser dans son débat, dans sa polémique avec Axel Honneth. Et effectivement, bon... bien que ce ne soit pas directement ma question et mon enjeu, mais globalement, le débat entre Fraser et Honneth, en gros, il est métapolitique. Hein. Il s'agit de savoir si les revendications de reconnaissance doivent être interprétées dans le cadre d'une théorie globale de la justice sociale. C'est la thèse de Nancy Fraser. Hein. Donc les théories de la reconnaissance doivent toujours être réinscrites dans une théorie globale de la justice sociale. Personnellement, je pense qu'elle a raison. Ou bien, c'est la thèse d'Axel Honneth, si les revendications de justice sociale doivent être interprétées comme des revendications de reconnaissance. Autrement dit, la thèse de Honneth, c'est que la théorie de la reconnaissance permet d'élaborer une définition de la justice sociale. Donc, si vous voulez, le débat entre les deux, il est métapolitique. C'est un débat qui est passionnant, qui n'est pas véritablement mon problème, c'est même pas celui dont je vais parler aujourd'hui, mais il le croise. Et ma question est plutôt la suivante. Ma question, elle est comment les affects sociaux et politiques passent-ils de la sphère matérielle à la sphère culturelle et vice-versa ? Comment ces affects, comment les expressions de subjectivation, de lutte, passent-ils d'une sphère à l'autre ? Comment expliquer les transferts d'investissement psychique, moral, idéologique de l'une à l'autre. Et si on peut faire l'hypothèse qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des revendications et une expression de type culturel que de type social, donc si on fait l'hypothèse qu'on est plutôt dans une sorte de surculturalisation, pourquoi cette surculturalisation ? À quoi mène-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Pourquoi cette surdétermination des conflits matériels par les conflits identitaires ? Alors, la réponse à cette question appelle une distinction que je voudrais faire, un peu comme hypothèse de travail entre subjectivité et identité. Alors, ce que j'appelle subjectivité, c'est, et ici je laisse de côté tous les, comment dire, donc les backgrounds philosophiques, en l'occurrence il y aurait Spinoza ici, mais je vais laisser tout ça de côté. Mais j'appelle subjectivité la puissance de l'exister de l'être humain dans l'unité et la pluralité de son être au monde. Alors la puissance d'exister de l'être humain dans l'unité et la pluralité de son être au monde, ça veut dire cette puissance d'exister dans les trois dimensions anthropologiques fondamentales que sont la vie, le travail et le langage. Donc puissance de vie, puissance de travail, puissance de langage. L'être au monde de l'homme s'exprime à travers une puissance continuelle de vie, de travail et de langage, à travers, elle est évidemment cette puissance toujours socialisée, à travers des rapports de parenté, des rapports économiques et des rapports de communication, des rapports médiatiques pris au sens le plus large. Et donc si on le dit maintenant dans les termes d'une théorie de la reconnaissance, on voit bien que le désir de reconnaissance, le besoin de reconnaissance, va ici prendre la forme d'un besoin ou d'un désir de participation de la subjectivité aux médiations sociales fondamentales de la vie affective et de la parenté, donc désir de participation à ces médiations fondamentales, médiation qui va se matérialisée dans l'habitat, dans le logement, je veux dire les relations, la parenté, c'est fondamentalement vivre ensemble dans un logement et dans un habitat. La subjectivité dans les médiations sociales fondamentales, qui est celle du travail, la médiation se matérialise évidemment ici dans l'emploi, la médiation du langage, elle va se matérialiser principalement, d'abord dans l'école, il n'y a pas que ça, mais c'est sans doute la principale. Logement, emploi, école. Et je pense que le désir de reconnaissance, c'est que l'individu demande à pouvoir être impliqué comme sujet actif dans ses institutions fondamentales et comme sujet actif de ses institutions fondamentales, comme ayant quelque chose à dire sur l'organisation du logement, de l'habitat, de l'emploi, de l'école, etc., etc. Ça, c'est ce que j'appelle la subjectivité. Vous voyez que je la réfère à des catégories comme celle de la médiation, hein, du milieu, une catégorie comme celle de la matérialité. Hein. On est ici dans des matérialités. J'appelle identité un segment de subjectivité, genre, prétendue race, couleur de peau, origine, ethnie, hein, donc référence à un peuple, avec une mémoire, etc., religion, langue. Donc vous avez ici des segments de subjectivité qui sont construits comment ? Qui sont construits par un écart différentiel, un écart symbolique, un écart imaginaire. Donc segments de subjectivité qui se construit à travers un écart différentiel par rapport à d'autres expressions de ce même segment. Je veux dire très clairement homme, femme. Sur le segment genre, vous allez construire l'identité homme, femme. Chrétien, musulman, homosexuel, hétérosexuel, etc., etc. Et cet écart différentiel, c'est ce qu'on appelle une discrimination. D'où une liste de motifs, et les juristes qui ont peur que tout ça leur échappe, peut-être même autant que les statisticiens, peut-être même plus encore que les statisticiens, donc il faut faire une liste de motifs, 19 motifs de discrimination, 19 segments, et il faut que la liste soit fermée, hein, et attention, bon, et si on n'est pas dans un des motifs, aïe, 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 bon. Donc là, on est vraiment dans un segment, et ces segments fonctionnent avec, comme ça, des couples oppositionnels. La demande de reconnaissance, ici, est d'un tout autre type. La demande de reconnaissance, elle va toucher à l'appartenance à un groupe ou à un statut, statut au sens de Max Weber. Hein. Donc, ça va être un sentiment de reconnaissance de son groupe ou de ce statut. Donc là, l'individu a une toute autre demande, je pense. Phénoménologiquement, c'est une toute autre demande. L'individu demande à ce que le groupe ou le statut auquel il appartient, l'individu demande que le groupe ou le statut auquel il s'identifie soit reconnu comme ayant autant de dignité et autant de valeur que le groupe de référence. Dignité et valeur égale de la femme par rapport à l'homme. Dignité et valeur égale de l'allochtone par rapport à l'autochtone, pour reprendre les catégories néerlandophones qui maintenant transpirent un peu partout en Belgique. Dignité et valeur égale du blanc, du noir par rapport au blanc, du musulman par rapport au chrétien, ou par rapport aux laïcs, si on est dans un contexte plus français, etc., etc. Donc, vous avez deux types de reconnaissance qui sont très différentes en réalité. Vous avez une différence appartenance. Vous avez une reconnaissance, donc appartenance, qui se situe au niveau des identités. À un moment donné, je m'identifie à un segment de ma subjectivité et j'ai un demande de reconnaissance de cette appartenance. Et puis il y a une autre logique, qui est une autre logique psychologique et politique, qui est une reconnaissance participation. Ma reconnaissance, c'est que je demande à pouvoir participer, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir un logement, avoir un enseignement de qualité, une formation, à pouvoir entrer en communication avec autrui, etc., etc. Alors, regardons un peu cette logique identitaire, deux minutes. Dans la logique identitaire, l'individu désire en fait conserver sa différence d'avec l'autre, puisque c'est cette différence qui fonde son identité. Donc c'est très intéressant parce qu'il va situer sa demande de reconnaissance au niveau même de la discrimination. Je veux dire par là qu'il ne va pas demander la suppression de cette discrimination. Ce qu'il va demander, c'est la suppression des effets négatifs sur son existence. Le sujet, et ça c'est quelque chose de très clair, hein, je vais donner des exemples quand les gens viennent très concrètement au Centre pour l'égalité des chances. Hein. Donc le sujet demande en fait la reconnaissance positive de sa différence. Il demande la fin de la discrimination négative, pour reprendre l'expression de Robert Castel. Donc le sujet demande la reconnaissance, il demande en fait qu'on le discrimine, il demande qu'on le reconnaisse, il demande qu'on l'identifie, mais positivement. Alors vous reconnaissez ici le discours de la diversité, le discours du métissage, qui postule en gros que la société serait meilleure si chacun reconnaissait la valeur positive de l'autre. Ça, c'est tout le discours d'une société, soyons riches de nos différences. Nous participions l'autre jour à un très sympathique débat avec M. Burnot ici présent. C'était vraiment très très bien fait, mais la phrase générale me posait problème, laissons-nous envahir par la diversité. Hein, bon. Je pense qu'on est en plein dans cette idéologie. Hein. Heureusement, je crois qu'on a pu un petit peu, et l'un et l'autre, les déniaiser par rapport à ça, leur montrer que les vrais enjeux n'étaient pas ceux-là, mais c'était absolument typique de cette idéologie de la diversité et du métissage. Je pense qu'une telle reconnaissance réciproque de la valeur positive de la différence des uns et des autres, je pense que c'est un leurre, parce que nous sommes bien d'accord que nous nous situons ici au niveau des identités. Parce que de deux choses l'une, donc on est toujours bien dans cette reconnaissance des identités, de deux choses l'une, soit je suis dominé, minoritaire, je m'identifie comme dominé minoritaire, et ma demande de reconnaissance identitaire prendra forcément une dimension victimaire. Je vais demander à l'identité dominante de reconnaître sa culpabilité historique à mon égard. Et aucune reconnaissance réciproque ne sera possible si, au départ, l'identité dominante ne reconnaît pas d'abord sa culpabilité historique. Ainsi, toutes les demandes de repentance, de réparation au nom de la traite négrière, de la Shoah, du colonialisme, avec une compétition entre ces différents groupes pour faire valoir son être victime comme étant premier au palmarès de la souffrance collective. Hein. La Shoah, c'était quand même pire que la traite négrière. Non, la traite négrière, c'était pire que le colonialisme. Non, le colonialisme, c'était pire que la Shoah, etc., etc. Soit je suis dominant, hein, je me situe toujours dans cette logique, soit je suis dominant, je suis majoritaire, et je vais exiger du minoritaire qu'il reconnaisse au préalable mon identité comme l'identité de référence. Je veux bien vous reconnaître dans votre identité, mais vous allez d'abord reconnaître, par exemple, mon socle de valeurs communes. Hein ? Ainsi, le discours du gouvernement français actuel sur l'identité nationale, hein, ou maintenant transféré sur la laïcité. Hein ? Reconnaissez d'abord l'identité nationale, reconnaissez d'abord la laïcité, et puis nous reconnaîtrons, nous pourrons éventuellement rentrer dans une reconnaissance réciproque de multiculturalisme, etc. Alors, je pense que l'expérience, la simple observation, montre que de telles luttes pour la reconnaissance sont des impasses, car les acteurs, prisonniers d'une relation spéculaire, se condamnent à évoluer dans une sorte de mauvais infini de la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, nous sommes ici au cœur du problème de la subjectivation morale de la lutte contre les discriminations. Donc, je prends vraiment la lutte contre les discriminations par un bout tout à fait différent de celui de Thomas, qui le voyait via le biais des discours qui se veulent froids, objectifs des statistiques. Moi, je m'intéresse à la subjectivation morale de ces luttes. Comment est-ce que les gens subjectivent ces luttes contre la discrimination? Et en fait, il y a deux manières de comprendre la non-discrimination. Si on prend les législations européennes ou nationales à la lettre, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que je m'emploie à faire dans mon boulot, la non-discrimination consiste à traiter les individus de façon égale, sans considération d'origine, de religion, de sexe, etc. C'est-à-dire sans prendre en compte leur identité ethnique, religieuse, sexuelle, etc. Et c'est comme ça, en gros, qu'on travaille, quand même. J'y reviendrai. Mais si les acteurs se situent dans une logique identitariste, ce qu'ils font, mais pas toujours, pas toujours. Si on se situe dans une logique identitariste, les acteurs vont leur transformer leur établissement d'égalité des chances. Par exemple, on réintègre un musulman dans son poste de travail dont il avait été évincé sur base de sa religion, on fait une action en cessation, on gagne, l'employeur réintègre le musulman, la femme en foulard, par exemple, etc., dans son boulot, dont il n'avait pas de raison de l'écarter, et c'est réinterprété comme une forme de reconnaissance de son identité de musulman. Ah donc, c'est que, je suis content, on me reconnaît comme musulman. Alors que si on se situe au niveau de la subjectivité, maintenant on retraduit ça en termes de subjectivité, le même rétablissement d'égalité doit être compris, et c'est effectivement bien ça qu'on a fait, comme une annulation de sa différence. C'est-à-dire on a dit, monsieur, on vous réintègre dans votre travail, non pas parce qu'on veut reconnaître en vous le musulman, mais parce qu'on veut justement ne pas reconnaître en vous un musulman, mais à vous traiter comme un travailleur, comme les autres. OK ? Vous voyez, c'est vraiment très différent dans la façon dont on voit les choses. Et je pense que ça a des conséquences gigantesques dans les politiques de non-discrimination. On observe la même ambiguïté avec la question des accommodements raisonnables. La fameuse question des accommodements raisonnables en matière de religion, vous savez, c'est l'aménagement des jours fériés, d'un local de prière, les repas halal dans les cantines, et ce genre de choses. Ces demandes d'accommodement raisonnable sont-elles des demandes de reconnaissance identitaire ? Alors, on a fait faire des études là-dessus, et les études sont très intéressantes parce qu'elles montrent que dans la grande majorité des cas, non, pas du tout. Ce ne sont pas du tout des demandes de reconnaissance identitaire. La demande de l'employé musulman, ce qu'il ne faut quand même pas tourner autour du pot, 9 fois sur 10, dans notre contexte sociologique en Belgique, il s'agit de ça. La demande de l'employé musulman de pouvoir faire ses prières, de disposer de repas adaptés, n'est pas une demande d'être reconnu comme musulman, n'est pas une demande de visibilité, mais au contraire une demande d'invisibilité. Il veut qu'on prenne des mesures pour justement ne pas se faire remarquer. Le travailleur ayant parfaitement compris qu'il veut être reconnu comme un travailleur comme les autres. Et donc, il demande des adaptations pour pouvoir travailler en respectant sa vie privée, personnelle, ce qui est son droit le plus strict, et comme un chrétien ou un laïc ou un athée n'a aucun mal à le faire, vu l'organisation de la vie sociale. Donc, ce n'est pas une demande d'être reconnu, ni négativement ni positivement, dans son identité de musulman, mais, je répète, de pouvoir être un travailleur comme les autres. Il y a très peu de demandes qui sont des demandes et des revendications de type identitaire. Il y en a, mais elles sont peu nombreuses. Et généralement, à ce moment-là, c'est une demande collective avec un enjeu interne dans une entreprise où il y a, par exemple, 60-70% de musulmans. Et c'est les plus prosélytes et les plus excités qui font les demandes pour pouvoir avoir un pouvoir sur les autres, faire du prosélytisme, etc. Donc, en général, c'est instrumentalisé. Donc la demande d'accommodement raisonnable que je viens de dire, elle se situe au niveau de la subjectivité, elle ne se situe pas au niveau de l'identité, au sens où j'employais ces termes. Pour preuve également, d'ailleurs, une des premières demandes d'accommodement raisonnable des travailleurs d'origine marocaine en Belgique est de prolonger les vacances d'été afin de retourner au pays, de grouper les vacances d'été ou de demander un congé sans solde pour retourner au pays, qui est une demande qui n'est nullement religieuse, qui n'a rien d'identité, qui est simplement... Voilà, de continuer à avoir des relations sociales avec le Maroc. Donc, demande qui se situe tout à fait au niveau de la subjectivité et non pas de l'identité. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous préconisons aux entreprises d'aborder cette question des accommodements raisonnables. D'ailleurs, un, surtout pas les rendre obligatoires, ça n'a aucun sens. Mais d'aborder ces questions, non pas à travers un prisme culturel ou religieux, mais à travers des dispositions générales, neutres, qui n'identifie pas le musulman. Donc, par exemple, prévoir des repas végétariens qui bénéficient pas seulement, qui sont pas seulement des repas halal, mais ce sera halal par le, by the way, en quelque sorte. Pas un local de prière, mais un local de silence, hein, où un vient, s'il veut, se reposer, l'autre lire un livre, et le troisième peut prier, puisque un musulman peut parfaitement prier avec quelqu'un juste à côté qui ne prie pas, et pas du tout obligé d'avoir un espace sacré. Des pauses pour tout le monde, et pas spécialement des temps de prière. Pause pour tout le monde, si quelqu'un veut fumer une cigarette, il va fumer une cigarette, etc., etc. Et l'expérience montre également que quand les entreprises abordent ces questions sous l'angle culturel identitaire, parce qu'elles le font, hein, parce que pour une entreprise, c'est la rentabilité qui compte. Donc s'il faut régler ça de façon culturelle et identitaire pour que ce soit rentable, pour que, ils le feront. Hein. Et vous avez par exemple des entreprises qui font appel à des imams pour demander qu'est-ce qu'il y a halal ou pas halal, etc. Une fois qu'elles entrent dans cette logique, c'est en général assez catastrophique parce qu'elles vont attiser les tensions plus qu'elles ne les éteignent. Et elles vont même parfois jusqu'à accéder à des demandes d'accommodement raisonnable qui sont tout à fait illégales. Par exemple, un groupe de travailleurs musulmans qui ne veulent pas travailler sous l'autorité d'une femme. On écarte la femme. On l'a vécu. Hein. On a des cas concrets et ils sont pas si anecdotiques que ça. Vous voyez, à ce moment-là, comment les acteurs acceptent la logique identitaire. Et vous voyez, évidemment, les effets pervers, les catastrophes que ça induit. C'est pourquoi aussi, à un niveau macrosociologique, cette fois, je porte un regard extrêmement critique à l'égard de l'idéologie du métissage culturel, voire même de la littérature philosophique sur le métissage, qui me semble être prisonnière de ce qu'elle dénonce, à savoir les identités fermées sur elles-mêmes. Parce que, par définition, si on y réfléchit bien, à moins d'en faire un usage extrêmement littéraire, et je pense que c'est bien ça le piège de la notion de métissage et d'hybridité, etc., comme par exemple chez Édouard Glissant et la créolisation, etc., par définition, le métissage et l'hybridation sont le fruit d'un croisement d'identités que l'on est d'abord obligé d'honorer en tant que tel. Hein ? Par définition, vous pouvez avoir une hybridation que si vous avez des identités qui sont honorées en tant que telles et qui sont cultivées en tant que telles. Donc une société métissée n'est possible que si les autres, ceux qui sont identifiés comme étant les autres, ne s'acculturent pas complètement, restent fidèles à leurs racines, et donc la créolisation débouche dialectiquement sur un réflexe identitaire en réalité, et sur une logique identitaire qui est d'autant plus vive, d'autant plus inoffensive qu'elle est éprouvée comme celle du minoritaire, du post-colonisé, etc. Maintenant, la question qui se pose à un niveau socio-historique, c'est pourquoi cette surculturalisation du discours politique et sociologique ? Pourquoi les questions d'identité et d'ethnicité surdéterminent-elles aujourd'hui les questions matérielles au point qu'un pays comme la Belgique se sent obligé d'organiser à 5 ans de distance, 4 ans de distance, deux méga débats institutionnels qui ont coûté chacun à peu près 1 million d'euros ? Hein ? Il faut exclure la thèse d'une originalité historiale des luttes de reconnaissance ethnoculturelle qui n'était évidemment pas absente des mouvements sociaux des 19e et 20e siècles. Évidemment, le mouvement ouvrier aussi a porté une tradition, un monde, une culture et on peut même dire une identité ouvrière. Donc les deux dimensions évidemment existent et nous avons tous une subjectivité et des identités, évidemment. Et de ce point de vue-là, Axel Honneth a raison de critiquer durement l'illusion chronologique ou épocale, comme ça, d'un Charles Taylor sur la question qui dit, ben voilà, en gros, on est passé des conflits matériels à des conflits post-matériels qu'il faut prendre en compte, qui sont spécifiques, qui sont dus à notre société sécularisée, diversité, diasporisée, de migration, etc., etc. Néanmoins, on ne peut nier un changement de centre de gravité des débats politiques, du social vers le culturel et du matériel vers l'identitaire. Mon hypothèse est la suivante, c'est que la logique identitaire se nourrit proportionnellement de ce que Hannah Arendt appelle la perte de monde, worldlessness, hein, de la perte, bon, on traduit parfois par désolation, hein, de la perte de monde, de la perte d'être au monde, qui est aussi à peu près ce que Axel Honneth appelle la réification, qui est ce que, par exemple, André Tozel appelle l'immondialisation, qui est un concept que je reprends un peu à mon compte, pour faire référence à la mondialisation, qui est en fait une immondialisation. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que quand s'effondre le monde de travail, de vie et de langage, quand se délitent les médiations matérielles que sont l'habitat, le travail et l'école, c'est-à-dire tout ce qui forme le tissu concret des subjectivités, le tissu concret des existences subjectives, à ce moment-là, l'homme est enclin, quand cela se délite, est enclin à investir ses affects dans un segment particulier de son existence, dans une identité, dans une appartenance sexuelle, généalogique ou communautaire. Autrement dit, c'est quand les individus n'ont plus prise sur les enjeux historico-matériels du monde qui les entoure, qu'ils fixent tendanciellement, hein, je ne dis pas que, évidemment, hein, que c'est de tout à rien ou de rien à tout, qu'ils fixent tendanciellement leurs affects sur des cibles de substitution que sont les segments d'identité, les segments de subjectivité que sont les identités. Et donc ils vont ainsi décharger dans les identités la crainte existentielle qu'ils ressentent face à un monde qui leur échappe. Alors en disant ça, ça veut dire que l'explication marxiste par les déterminations socio-économiques n'est pas valide si elle signifie simplement que les identités ne seraient que le reflet de l'injustice sociale, le reflet de la misère matérielle. Pour paraphraser Marx, comme si l'identité, c'était l'opium du peuple. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. La passion identitaire n'est pas un reflet de l'indigence matérielle. La passion identitaire, elle est une réponse à la perte de croyance dans le monde. Et ici, je voudrais un peu convoquer des analyses d'Anna Arendt, par exemple. Donc, la passion identitaire, elle est une réponse à la perte de croyance dans le monde. La rupture du lien matériel entre l'homme et le monde. Pour prendre une référence plus récente, quelqu'un comme Frank Fischbach, par exemple, a développé assez fort ces thèmes-là. Et sous cet angle, les populations précarisées ne sont pas les seules, loin s'en faut, à surinvestir dans la lutte identitaire. En fait, tout groupe social dont les repères historico-pratiques sont en train de se défaire, pour une raison ou pour une autre, se replie sur l'identité. C'est par exemple clairement le cas des populations nanties que sont les classes moyennes européennes, qui adhèrent aujourd'hui massivement à un identitarisme de type national populiste. Ça provient aussi d'un sentiment de dépossession du monde consécutif à la globalisation. L'incapacité politique de ces classes moyennes, qui avant avaient une grande capacité politique, leur incapacité politique d'avoir prise sur cette globalisation et qui engendre là aussi une perte de croyance dans le monde, qui va là aussi se traduire par une demande de reconnaissance appartenance, en l'occurrence de type identitaire. Je vise ici évidemment en particulier les néonationalismes de type flamand, italien du Nord, catalan, par exemple. Et là, ce sont les populations immigrées qui vont faire évidemment les frais de cette reconnaissance appartenance. Donc, mon idée, c'est que si les conflits ne trouvent pas de résolution dans le champ matériel, si les conflits ne parviennent pas à s'exprimer dans le champ matériel, non pas parce que un des protagonistes domine l'autre, parce que dans les conflits, il y a toujours un protagoniste qui domine l'autre, mais parce que un des protagonistes a détruit le milieu même dans lequel l'affrontement a lieu. Parce que, donc, au sens où le milieu de l'affrontement n'existe même plus, donc il n'y a même plus d'espace de dissensus pour discuter au sujet de l'organisation du travail, de l'habitat et de l'école, ce qui est aussi une réalité, qui est, dans un conflit social, qui est l'adversaire, à partir du moment où le patron est des actionnaires et qu'on ne connaît même plus, qu'on ne peut même plus matériellement mettre devant un comité de concertation de base en disant « c'est eux ». Donc pour parler de choses tout à fait concrètes. Mais donc, quand il n'y a même plus d'espace de dissensus pour disputer au sujet d'organisation du travail, de l'habitat ou de l'école, alors les conflits deviennent inexorablement identitaires. Ils vont à ce moment-là se fixer sur ces objets imaginaires, un imaginaire productif, un imaginaire effectif, mais sur ces objets imaginaires que sont les segments de subjectivité. Et donc, il y a wordlessness, il y a réification, il y a immondialisation. Chaque fois que les hommes se trouvent ainsi privés de leur capacité d'exprimer leur puissance subjective à travers des médiations institutionnelles et matérielles d'un monde commun, les individus, les acteurs se retrouvent exposés les uns aux autres, c'est-à-dire réduits à leur identité visible et différentielle. Parce que lorsque les individus, enfin l'homme nu dont parle parfois Gamben, l'homme nu c'est pas la zoé, c'est pas l'être biologique, c'est l'être dont son identité visible et différentielle de musulman, de blanc, de femme, etc., etc. À ce moment-là, c'est l'identité imaginaire qui apparaît comme fixant. Et à ce moment-là, c'est ce qui fait que des gens qui, le matin, qui un jour pouvaient parfaitement cohabiter avec leur voisin, le lendemain, leur voisin devient quelqu'un qu'il faut absolument massacrer. Hein, voilà. Or, l'immondialisation marchande correspond à ce cas de figure où l'un des protagonistes, le capital, je suis désolé de parler dans des termes aussi massifs, mais enfin, de temps en temps, en termes de récit, je pense qu'il faut redire le récit tel qu'il se passe. On est dans un cas de figure où l'un des protagonistes, le capital, est en train de détruire le milieu de son affrontement avec les forces antagonistes du travail. C'est pas seulement qu'il est en train de les dominer dans l'espace de dissensus, c'est qu'il est en train de détruire l'espace de dissensus lui-même. Et la réduction des individus au statut de marchandise utile ou inutile, et donc là, l'exclusion des inutiles, de ceux qui sont inutiles, de ceux qu'on appelait au Moyen-Âge les inutiles au monde, ou les surnuméraires, à peu près ce que Étienne Balibar appelle la violence ultra-objective dans Violence et civilité, elle a pour corollaire la fixation obsessionnelle sur les identités et sur les cultures. C'est ce qu'il appelle la violence ultra-subjective. Et donc, si les débats sur l'interculturalité sont devenus si vifs partout en Occident, aujourd'hui, je pense que la cause ne se trouve pas dans l'augmentation des flux migratoires, parce qu'il n'y a pas augmentation des flux migratoires. Elle n'est pas due à la présence de l'islam en Europe, parce que cette présence reste extrêmement minoritaire. C'est 4-5% de la population européenne à tout casser. Elle est dans le démantèlement systématique de l'État social, c'est-à-dire de l'espace d'affrontement et de vie qui existait plus ou moins en Europe depuis au moins 1945, mais je pense même depuis le début du siècle. C'est le démantèlement progressif de l'État social, c'est le recul imposé au mouvement ouvrier qui est la cause tout à fait directe de ces débats sur l'interculturalité. Je voudrais dire les choses vraiment en séquence épocale de façon tout à fait claire. À partir des années 80 et 90, s'éteint ce que Wallerstein appelle l'optimisme des opprimés. L'optimisme des opprimés, c'est très important. C'est la projection possible de la subjectivité dans le futur. C'est l'idée plus ou moins diffuse que demain sera meilleur, que nos enfants vivront mieux que nous. Voilà. À partir du moment où il y a cette perte de croyance, on est dans l'ordre de la croyance et de la subjectivation, qui est vraiment la perte de croyance dans le monde. Évidemment, je le répète encore, les hommes, perdant leur repère commun qui les accueille comme subjectivité concrète, perdant les repères d'un monde commun qui les accueille comme subjectivité concrète, eh bien, se retrouvent exposés aux identités les uns des autres, l'ethnie, la religion, la couleur de peau, etc. Ce qu'on appelle pompeusement le modèle culturaliste anglo-saxon n'est en fait qu'une conséquence de la politique néolibérale. Les années Thatcher, ça a été quoi ? L'État s'est retiré, les services publics se sont retirés des banlieues difficiles, et on a délégué la question sociale aux leaders religieux et communautaires. C'est ça qu'on appelle le merveilleux modèle multiculturaliste anglo-saxon. Et donc, aux conventions collectives, à la civilisation du travail, on a substitué l'idéologie de la diversité, si bien appariée au nouvel esprit du capitalisme. Aux politiques publiques, dans les banlieues difficiles, on a substitué la gestion communautaire par les leaders religieux ou ethniques, imams ou pasteurs pentecôtistes. Aux protections de l'État social, on a substitué l'endettement des ménages, le traitement anxiogène des migrations et la gestion policière des diasporas, avec un continuum entre les centres fermés, les prisons, les IPPJ. On a en gros, dans l'image de la population, la même population, en gros les immigrés, même s'il n'y a aucun rapport réel entre l'immigré équatorien qui arrive aujourd'hui et le Marocain, la troisième génération, qui est en IPPJ, mais ça forme un continuum de ce que l'on considère comme étant en gros l'adversaire. Le point philosophique essentiel, vous voyez, c'est que dans de telles conditions, je le répète encore, les acteurs sociaux ne peuvent même plus débattre de la question de la justice, faute d'un espace commun. La participation égalitaire à la vie sociale est altérée au point que le conflit social lui-même devient impossible, poussant les acteurs à reporter mécaniquement leur négativité vers les revendications identitaires et à régresser en quelque sorte à un stade pré-politique qui est à peu près, me semble-t-il, celui de la dialectique du maître et de l'esclave. D'ailleurs, la seule issue possible au mauvais infini de la dialectique du maître et de l'esclave, c'est l'institution d'un monde commun. Je crois qu'il est important de rappeler que la dialectique du maître et de l'esclave, la lutte pour la reconnaissance chez Hegel, ça se situe dans l'esprit subjectif, c'est-à-dire le rapport à soi et non pas dans l'esprit objectif. Et comment sort-on de la lutte pour la reconnaissance? Comment est-ce qu'on sort de la dialectique du maître et de l'esclave? C'est en passant à l'esprit objectif, c'est-à-dire l'institution d'un monde commun. Donc il faut sortir de la logique de la reconnaissance. Il n'y a pas de solution aux demandes de reconnaissance à l'intérieur de la logique de la reconnaissance. Des philosophes comme Taylor, Ricoeur et Habermas pensent qu'un tel monde commun, je ne refais pas l'injure de croire, eux, qu'une reconnaissance réciproque est possible, mais ils savent bien qu'il faut un monde commun, mais ils pensent qu'un monde commun est réalisé à partir du moment où les conditions d'une communication sans contrainte sont remplies. Pourquoi ? Parce qu'ils font l'hypothèse anthropologique d'une sorte de charité communicationnelle, de charité herméneutique des individus, en gros, l'homme, fondamentalement, a envie d'instituer un monde commun. Je suis beaucoup moins persuadé que sur le plan anthropologique. C'est une voie proposée qui est une voie éthique, qui va à ce moment-là, dire qu'il faut abandonner la posture de la revendication, de la lutte, faire un travail de décentrement, un travail sur soi-même pour accueillir le point de vue de l'autre, etc., etc. On va venir avec le pardon, avec ce genre de choses. C'est l'identité reconstructive d'un Jean-Marc Ferry, par exemple. Tout ça est très intéressant. Je pense qu'on n'est pas dans la politique. Je pense qu'on est dans l'éthique. On est dans le travail sur soi, mais on n'est pas dans la politique. Je pense, alors, pour le coup, avec Honneth, parce que je pense que Honneth est un philosophe de la reconnaissance très différent d'un Charles Taylor, par exemple, très différent. Je pense, avec Honneth, qu'un tel monde commun, institution d'un monde commun, est plutôt une création continuée qui se nourrit constamment de luttes sociales de reconnaissance. Donc les luttes de reconnaissance, elles ne vont évidemment pas s'arrêter, elles vont évidemment continuer, et on a un effet de création continuée d'un monde commun à travers les luttes. C'est en ce sens que le conflit est émancipateur et que le conflit est intégrateur, que le conflit est producteur de liens sociaux. Autrement dit, la sortie de... J'entame la conclusion. La sortie de la dialectique du maître et de l'esclave et l'institution d'un monde commun n'efface pas le conflit et la lutte entre les protagonistes. Elle substitue à la lutte psychologique, à la lutte identitaire des consciences exposées les unes aux autres, parce que c'est ça la dialectique du maître et de l'esclave, elle substitue à cette lutte psychologique la lutte politique en vue de produire et de transformer le monde commun. Donc on transforme un conflit dans un autre. On va dans le sens inverse de celui que j'ai décrit de façon épocale. Donc la reconnaissance que le dominé vise alors n'est plus la reconnaissance de son identité d'humilié, la reconnaissance de l'esclave, n'est plus la reconnaissance de son identité d'humilié et de victime face à celle du dominant, c'est la reconnaissance de sa subjectivité d'être humain, vivant, travaillant et parlant dans un monde commun. Je pense que c'est à peu près la lecture de Kojève, lecture peut-être fausse philologiquement, mais je n'en ai strictement rien à faire. La subjectivation est donc désidentification. La subjectivation, elle est arrachement à la naturalité d'une place, comme le dit Jacques Rancière. Elle est désidentification de la femme, de la loctone, de l'homosexuel. Elle est insertion de la subjectivité dans un monde public commun que le sujet contribue à modifier et à refigurer, parce qu'un sujet ne peut jamais s'intégrer dans ce monde commun qu'en le refigurant conflictuellement. Pour notre propos, il est instructif de voir comment des institutions publiques spécialisées de lutte contre la discrimination, comme la ALDE en France ou l'équivalent en Belgique, le Centre, organisent leur travail. C'est intéressant parce qu'on n'organise pas le travail par public cible. Je dis toujours, nous ne sommes pas Nous n'assurons pas la défense de la communauté juive contre l'antisémitisme, de la communauté musulmane contre l'islamophobie, de la communauté gay ou lesbigay contre l'homophobie. On n'organise même pas notre travail par motif de discrimination. Donc on n'a pas un service religion, un service race, un service orientation sexuelle, etc., à l'exception du handicap, mais précisément parce que le handicap n'est pas une identité, que c'est une discrimination qui s'indexe directement sur la subjectivité, donc à l'exception du handicap, mais on organise notre travail par champ d'application. C'est-à-dire on a un groupe de travail, pas vraiment des services, peu importe ici le management interne du centre, vous en foutez, mais par champ d'application, on a un groupe de travail emploi, on a un groupe de travail logement, on a un groupe de travail enseignement, un groupe de travail santé. Donc on fonctionne par champ d'application. Ainsi, la lutte antidiscrimination, elle vient plonger dans l'infrastructure matérielle de la société, et c'est la seule façon de cerner les mécanismes structurels de discrimination, ce qui nous mène droit à la question de l'injustice sociale. Et c'est là où on a l'enjeu. Soit on va travailler avec des corrélations, on va travailler à fluidifier le marché, à essayer de faire en sorte que ces mécanismes de discrimination soient les... Voilà, pour fluidifier la société. Soit on plonge et on retrouve les questions d'injustice sociale. Parce que vous savez, quand on travaille sur la discrimination dans le logement social, c'est pas compliqué de retomber sur la question de la pauvreté, hein, ça, c'est-à-dire sur les questions des inégalités sociales. Hein. Bon. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la rationalité des statistiques et sur le fait qu'on n'a justement pas de statistiques en matière de discrimination, qu'on fonctionne, la mesure de la discrimination, on fonctionne avec des tas de trucs, sauf les statistiques, on fonctionne avec des chiffres, mais qui ne sont pas statistiques, avec des études qualitatives, avec des interviews, des surveys, ce qu'on appelle, avec des tests agrégés, mais qui n'ont pas vraiment la statistique. Mais ça, c'est un peu le paradoxe. Mais je suis d'accord qu'il y a, en tout cas, un imaginaire de la statistique et une idéologie de la statistique. Ça, je ne le dirai pas. De même, je ne cesse personnellement de rappeler qu'une politique spécifique de lutte contre les discriminations ou de promotion de la diversité culturelle, j'ai quand même rien contre, a priori, il faut voir ce qu'on entend par là, n'atteint ses objectifs que si elle est associée à des politiques sociales générales de lutte contre la pauvreté, le chômage, le déficit de formation, etc. Je veux dire très concrètement, je suis évidemment partisan de mesures spécifiques comme le CV anonyme, par exemple, hein, comme la discrimination positive en faveur des jeunes de banlieue, par exemple. Je suis tout à fait partisan, je peux expliquer pourquoi. Mais ces mesures n'ont aucun effet si elles ne sont pas croisées avec des mesures sociales classiques. Ça ne sert à rien de favoriser l'embauche, de faire un grand plan de diversité ou une politique de discrimination positive pour favoriser l'embauche des personnes d'origine étrangère ou des jeunes de banlieue ou des femmes, si c'est pour leur proposer des CDD ou des temps partiels qui ne feront évidemment que maintenir ces publics dits minoritaires dans le précariat, évidemment. Donc il faut toujours faire le lien avec des politiques générales. Et il ne faut pas s'étonner non plus que tous les débats qui ont eu lieu ces dernières années sur l'identité nationale ou sur le dialogue interculturel ont dégénéré ou se soient enlisés, que ce soit le débat sur l'identité nationale en France, la campagne en faveur de l'interdiction des minarets en Suisse, particulièrement surréaliste, la remise en cause d'un soi-disant modèle multiculturaliste en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, le débat sur les accommodements raisonnables au Québec qui s'est déroulé dans une ambiance absolument détestable. Tous ces débats ont été crispés, haineux, nauséabonds, et je pense que c'est inévitable à partir du moment où ces débats ont toujours été posés dans une logique de l'identité et non pas dans une logique de la subjectivité au sens où je l'ai dit. Alors je termine par une petite anecdote. Lorsque la ministre en charge de l'interculturalité et d'égalité des chances, qui est Joëlle Milquet, m'a demandé mon avis sur l'organisation des assises de l'interculturalité, j'ai d'abord dit que c'était peut-être pas tout à fait utile parce qu'on en sortait, mais peu importe, elle voulait absolument le faire, et elle est là démocratiquement, et c'est le choix, c'était dans l'accord de gouvernement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais je me suis empressé de dire qu'il ne fallait surtout pas réunir le poteau-poteau interculturel, les représentants des cultes religieux qui représentent les juifs en Belgique, qui représentent les musulmans, qui représentent les orthodoxes, enfin, on n'en sort pas, évidemment, les animateurs culturels, les militants antiracistes, mais plutôt de constituer une équipe restreinte de décideurs sociaux au sens strict, syndicats, gestionnaires de logements sociaux, directeurs d'écoles, d'hôpitaux, de maisons de repos, qui auraient eu la capacité de réinvestir les questions ethniques ou identitaires dans une perspective matérielle concrète. Parce que pour le directeur de maison de repos qui commence à avoir des vieux couples homosexuels et puis un vieux couple de Marocains, il fait comment, hein? Nous, on sait un petit peu comment il fait, mais c'est intéressant de voir. Il fait comment Et il a besoin de quoi comme outil, éventuellement, hein? Alors ça, ça aurait été intéressant, hein, de poser ces questions éventuelles. Mais non, pour des tas de raisons. On aurait vu aussi que les problèmes dits interculturels dans les entreprises, on a très souvent, nous, par exemple, les pompiers de Bruxelles, enfin, qui viennent nous trouver, on a des problèmes interculturels, on a des problèmes avec les musulmans, des problèmes interculturels. Puis on va voir, c'est pas des problèmes interculturels, les dits musulmans, en fait, sont des jeunes. Et ils ont surtout des problèmes avec les vieux, qui sont statutaires. Les jeunes, ils sont contractuels. Et on a des problèmes générationnels. On a des problèmes d'entrée chez les pompiers de Bruxelles, parce qu'il y a un plan de diversité pour faire entrer les femmes chez les pompiers, très bien, mais évidemment, ça ne se passe pas facilement, avec les statuts, etc., etc. Et puis on voit que ce sont des problèmes sociaux assez classiques derrière le problème interculturel. Donc, pour ça que c'est plutôt intéressant d'avoir le directeur des pompiers de Bruxelles, enfin, je ne le connais pas, hein, en l'occurrence, mais au sein d'un groupe pareil. Ce n'est évidemment pas du tout ce que la ministre voulait, qui est une multiculturaliste convaincue, avec des objectifs politiques qui sont tout à fait légitimes vis-à-vis de l'électorat allochtone de Bruxelles qui vote socialiste, etc. Enfin bon, tout ça, c'est le jeu politique habituel. Elle a donc fait un comité de 30 personnes avec le grand rabbin, un archevêque, etc., etc. Tout le poteau-poteau multiculturel, donc exactement le contraire de ce que j'avais dit. Et ça a donné quoi? C'est un rapport très multiculturaliste qui, par certains aspects, est à contre-courant de tout le discours en Occident actuellement. De ce point de vue-là, c'est extrêmement sympathique. Je préfère ça de très loin sur le plan moral aux choses tout à fait nauséabondes qu'on a pu voir en France ou en Suisse, par exemple, ou en Allemagne aujourd'hui. Donc sur le plan moral, je ne peux qu'adhérer. Mais ce rapport, aussi sympathique qu'il soit, a eu évidemment un effet politique désastreux. Tout à fait désastreux. La population majoritaire a eu le sentiment qu'on lui faisait une énième leçon d'antiracisme, que le gouvernement allait en gros remplacer le lundi de Pâques par la fête du mouton, ce qui était faux, mais ça a été perçu comme ça. Donc le rapport a paru extrêmement anxiogène, hein, pour tout le monde, culpabilisant les autres, victimisant les autres, disant aux minorités « Est-ce que vous voyez tout ce qu'on doit faire pour vous? On va faire 40 mesures ». Pour vous, vous voyez, vous nous posez vraiment un gros problème. Donc c'est un rapport qui était anxiogène pour tout le monde, donc finalement, qui a évidemment tout à fait raté son coup sur le plan politique. Bref, le débat s'est focalisé sur des questions symboliques anxiogènes, les jours fériés, les statistiques ethniques, les accommodements raisonnables, au lieu de tourner sur la vraie question, qui est la crise du modèle social belge, donc des mécanismes d'intégration et de lutte contre les discriminations. Parce que si vous n'avez pas un modèle social, un état social fort, vous n'avez pas de mécanisme d'intégration efficace et vous n'avez pas de lutte contre les discriminations efficace. Le Centre pour l'égalité des chances, alors on peut le voir de deux façons. Moi, je le vois comme un des instruments d'un État social. Je ne le vois pas comme une aide au management des entreprises. Je voudrais d'ailleurs conclure au sujet de la crise politique que nous traversons actuellement. En apparence, l'affrontement entre flamands et francophones est un affrontement identitaire et ethnoculturel. Je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème communautaire et le problème institutionnel, il est réglé. Depuis 4 mois, les solutions sont sur la table à 2 virgules près. Le véritable enjeu, c'est le démantèlement du modèle social belge. Le parti nationaliste flamand, la NVA... est avant tout un parti ultralibéral avant, j'ose dire ça, hein, avant d'être un parti nationaliste, c'est un parti ultralibéral qui veut mettre fin aux mécanismes de solidarité sociale, comme par exemple l'indexation automatique des salaires. Je suis sûr qu'ils y arriveront. Et le bras de fer actuel, c'est ça. Il n'est pas sur BHV, dont tout le monde se fiche, hein, il n'est pas sur BHV, il est sur ce qui reste encore du modèle social belge. Et donc derrière les revendications nationalistes flamandes et les résistances régionalistes wallonnes, il y a en fait un conflit capital-travail des plus classiques, si vous voulez bien y regarder. Je pense qu'une théorie conséquente de la reconnaissance, de la subjectivation des luttes ne doit jamais perdre de vue cette matérialité fondamentale de la subjectivation des luttes. Voilà, je vous remercie.